I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai pleuré parce que je me remémorais la scène de l'accouchement. On m'a juste dit, voilà, il y a des petites complications, on va vous garder avec nous.
De la sérénité, la sécurité et la confiance en soi. Si vous avez tous ces éléments qui sont réunis, vous êtes capable de faire des choses incroyables.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Toumi.
Bonjour Mathilde.
Je vous en prie, installez-vous.
Alors Toumi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Je viens vous parler de mon premier accouchement qui a été extrêmement difficile.
Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre premier accouchement ?
Je suis maman de deux garçons. Mmh. Et mon premier accouchement, c'était il y a 3 ans. On m'a détecté, déjà au niveau de la grossesse, on m'a détecté un diabète gestationnel à 6 mois. Mmh. Donc déjà, c'était pas simple. Et ça a été un diabète où il fallait d'abord faire attention à ce que je mangeais. Mmh. Et ensuite avec piqûre d'insuline. Mmh. Et sur la fin, il y avait un suivi monitoring à raison de 2 fois par semaine. Mmh.
Très régulier.
Exactement. Mmh. Alors l'accouchement, ça a été assez douloureux. En fait, du fait de ce diabète, on a décidé de me déclencher.
Vous savez pourquoi ?
C'était pour me mettre le produit, pour dilater le col. Mmh. Et donc, du coup, pour ce déclenchement, j'avais rendez-vous le 24 mai. Et donc là, on m'a mis le produit pour ouvrir le col, en me disant qu'il fallait que je sois sous leur surveillance pour ça. J'ai passé toute la journée à l'hôpital, donc à attendre. Mmh. Et puis, la première nuit, on m'a demandé de descendre en salle de naissance pour faire le contrôle. Il devait être, je ne sais plus, 23h, minuit, quelque chose comme ça. Et en fait, il se trouve que je ne savais pas, mais j'y suis restée. Et donc, toute la nuit, on m'a dit que le travail avait commencé et que ça s'ouvrait petit à petit. Et à 5h du matin, j'ai perdu les os. Mmh. Donc là, dans la panique, parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble un accouchement. Mmh. Donc du coup, j'ai appelé mon compagnon et voilà, qui s'est empressé d'arriver à 6h du matin, alors qu'en fait, mon fils est arrivé qu'à 16h. Mmh. Donc voilà, ça a été long et pénible. Pourquoi ? Parce que au départ, le travail se faisait doucement. Et au moment où il fallait pousser, le bébé était en bonne position, mais il ne descendait pas. Au niveau du bassin, ça ne passait pas. Du coup, j'ai subi une épisiotomie. Mm-hmm. Ensuite...
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, de l'épisiotomie ?
En fait, je l'ai su que... Je ne saurais pas vous dire parce que je l'ai su que le lendemain, ce que j'avais vécu. Mmh. Mais pardon, j'ai oublié, je suis désolée, je vais revenir en arrière, j'ai oublié juste une étape assez importante. La sage-femme, au moment de pousser, en fait, j'y arrivais pas. Et donc, du coup, la sage-femme m'a fait comprendre, elle m'a dit, si, madame, si vous y arrivez pas, on va appeler le médecin. On sait bien que quand on appelle les médecins, c'est jamais bon signe. Du coup, le médecin est arrivé, il m'a manipulé le ventre, je sais pas ce qu'il a fait, il m'a manipulé le ventre, peut-être replacer le bébé ou quelque chose comme ça. Pour que ça marche, il est reparti. J'ai été reprise en main par les sages-femmes et j'y arrivais toujours pas. Le médecin est revenu et cette fois il est parvenu seul. Il était avec au moins, je dirais, 5-6 internes. J'étais devenue un cas d'école, quoi, on peut dire. Donc voilà, c'était pas non plus sous les meilleurs.
Oui, c'était pas dans un climat d'intimité respecté.
Pas du tout. Ensuite, donc j'ai fini par y arriver. J'ai senti la déchirure. Je l'ai senti. J'ai appris le lendemain qu'ils avaient aussi utilisé les forceps parce que en fait sur le coup, moi je n'ai rien compris, rien suivi, si ce n'est qu'il fallait que je pousse. J'ai omis de vous dire que j'avais subi la péridurale.
Donc tout ça a été sous péridurale.
Ouais,
c'est pour cette raison, Toumi, que vous n'arriviez pas à pousser parce que vous ne sentiez pas ce qui se passait dans votre corps?
Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que je n'arrivais pas à pousser, mais je ne sentais rien. Et en fait, très bêtement, on a ce petit bouton-là, cet interrupteur dans la main, mais on ne nous dit... Enfin, c'est peut-être moi qui n'ai pas tout compris, mais je ne savais pas qu'on appuie une fois, en fait, c'est une dose qui part. Donc, sur les nerfs... Bah, on appuie, et du coup, j'étais à, je crois, à 2000% de péridurale. Donc, j'ai rien senti. Donc, la sage-femme me prévenait quand il y avait une contraction. Et quand il y en avait une, elle appuyait un peu sur mon ventre pour que le bébé sorte. Donc, le bébé a fini par sortir. J'étais évidemment extrêmement heureuse et soulagée. Et puis, j'ai eu très, très mal. J'ai vraiment senti ça s'est déchiré.
Vous avez senti quand il est passé?
Ouais, j'ai senti, ouais. On me l'a donné dans les bras. Donc là, il y a juste un moment d'apaisement qui arrive. Il est arrivé pas très longtemps, puisque au bout de quelques minutes, on l'a donné à son papa. Et son papa est parti donc en salle de soins.
Avec le bébé.
Avec le bébé. Et moi, on m'a juste dit, il y a des petites complications, on va vous garder avec nous. Donc, de là, j'ai subi une deuxième intervention sous anesthésie générale. Tout ce que je vous raconte là, je l'ai compris 24 heures après. Sur le coup, je ne comprenais pas. Je savais que je restais avec eux, j'étais complètement stone. Donc du coup, on m'a dit que j'allais subir une deuxième intervention. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance. Donc, j'ai compris que mon placenta n'avait pas été décroché, qu'on m'a fait un curetage. Donc, si j'ai bien compris, un curetage, c'est quand quelqu'un met sa main, vient chercher le placenta là où il est. Et que j'avais perdu 1 litre de sang et que j'avais besoin de me reposer. Donc ça, c'était à... Tilane est sorti à 16h. Et dans la foulée, donc, il y a eu cette deuxième intervention. Je suis remontée dans ma chambre à 23h.
Et vous êtes restée presque 24 heures en salle de naissance.
Exactement. La priorité a été de s'occuper de notre bébé, d'être sur notre nuage. Arnaud, lui, était sur son nuage, il a son fils dans les bras. Et à un moment donné, il s'inquiétait, il se dit elle est où Toumi? Quand est-ce que je la retrouve? Et puis il rentre donc, dans la pièce qu'on avait investie de manière hyper à l'aise. Et en fait, il voit mes pattes en l'air. Avec plein de médecins autour, en action. Voilà, l'ambiance n'était pas du tout à la décontraction, puis c'était en plein travail. Donc on lui a prié de sortir. Et c'est là seulement qu'on lui a expliqué ce qui s'était passé. Je pense que sur le coup, il a rien dû comprendre non plus. Je pense qu'on a dû le rassurer sur mon état. Mais que voilà, c'était pas pour tout de suite. Il fallait qu'il attende que je me réveille. Et donc je me suis réveillée à 23h, pleine de tuyaux et de perfs.
Donc cette intervention que vous avez eue, elle a été sous anesthésie générale. On a dû vous endormir.
Oui.
D'accord.
Et en me réveillant, j'étais tellement stone que je n'ai même pas pensé à dire à mon compagnon, donne-moi le bébé dans mes bras. Tellement j'étais axée sur moi, quoi, et sur mon état. On est remonté, j'ai donné le sein. La nuit s'est passée un peu chaotique. Moi, je pense que j'ai beaucoup dormi. Dans mon souvenir, on a pris notre fils pour s'en occuper à la nurserie et on a autorisé mon compagnon à rester dormir sur un matelas par terre dans la chambre avec moi parce que j'allais être très assistée les jours qui allaient suivre. Et en effet, j'étais très assistée les jours qui ont suivi. J'étais incapable de m'habiller seule. La seule chose que je pouvais faire, c'était prendre mon bébé dans les bras et lui donner le sein. Ça ne me demandait pas trop d'efforts. Mais pour ce qui est des premiers soins, des premiers bains, ça a été compliqué. Les visites, on les a clairement, à part les quelques membres très très proches de la famille, les visites, on les a supprimées. Et c'est le lendemain, quand j'ai retrouvé mes esprits, quand j'ai retrouvé un petit peu ma santé, où j'ai pu me lever sur mes deux pieds. J'ai demandé à une sage-femme, j'ai demandé très très sincèrement, qu'est-ce que vous m'avez fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai besoin de comprendre. Mmh. Et donc c'est là que, voilà, qu'on m'a aussi donné le rapport de l'accouchement et qu'on m'a expliqué ce qui s'était passé. Mmh. J'ai compris que, bien entendu, qu'ils avaient fait au mieux, j'imagine, qu'il y a des cas comme ça où, en urgence, il faut agir. Et que mon bébé était en bonne santé, moi un peu moins, mais ma foi, c'est comme ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, on ignore tout, hein, avant de le vivre une fois. Et on ignorait, enfin, je pense qu'Arnaud a minimisé les choses par ignorance. Et donc, du coup, lui, le fameux texto aux copains, aux familles, bah, il dit c'était long, mais tout s'est bien passé. En fait, alors que pas du tout, on n'a pas compris. Déjà, je ne savais pas, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas ce que c'était cette hémorragie de la délivrance. J'en savais rien. Donc voilà, ça a été particulièrement éprouvant. Et les trois jours à l'hôpital, on a été suivis, assistés de près. Il y a une psychologue aussi qui est intervenue. Les sages-femmes ont été aux petits soins pour nous. Voilà, ça a été dur.
Est-ce que ça a eu des conséquences dans les semaines, les jours, les semaines, les mois qui ont suivi pour vous cet accouchement très difficile ?
Bah, ça a eu des conséquences même sur l'année qui a suivi. Je me souviens déjà le premier anniversaire, j'ai pleuré parce que je me remémorais la scène de l'accouchement. Au lieu d'être joyeuse, j'ai eu tout le phénomène inverse. Et puis bah oui, forcément, moi, l'accouchement, il a été très très dur et j'ai mis du temps à oublier dans ma tête. J'ai mis beaucoup de temps.
Ça a été plus long dans votre tête que dans votre corps pour vous remettre ?
Oui, clairement. Ouais, je me souviens plus, mais je crois que j'ai été suivie pour ça. Enfin, de toute manière, je constate déjà pour moi à titre personnel, donc je pense que j'en ai parlé souvent. Mais puis, enfin, quand on devient parent, ça nous arrive, si je puis dire, dans la gueule comme ça du jour au lendemain. C'est pas facile à gérer. Effectivement, quand de la douleur en plus. Et là, je me souviens avoir ressenti de la fatigue, du stress, de la peur de ne pas y arriver. Et en plus de ça, de la douleur. Voilà. Et j'ai eu mal pendant plusieurs semaines. Alors j'ai été très très bien suivie par ma sage-femme qui est intervenue à la maison aussi souvent que nécessaire. Mais voilà, pour les cicatrices, pour parler, pour le bébé... mais oui, ça reste un événement marquant.
Bien sûr. Vous nous disiez que vous avez deux enfants, donc vous avez eu un deuxième accouchement. Comment ça s'est passé la deuxième fois ?
Eh bien alors, complètement différemment de la première. Alors, ce qui n'est pas complètement différent, c'est que, on dit que les femmes qui ont fait un diabète gestationnel, une fois, sont sujettes à un deuxième diabète gestationnel. Et comme j'ai beaucoup de chance, j'ai eu un deuxième diabète gestationnel. Donc voilà, je savais pourquoi je le faisais. Je connaissais l'enjeu quand on fait un bébé qui est beau comme tout, qui est en bonne santé, parce qu'on a fait des efforts. On réitère sans rechigner. Même si c'était difficile, ça a été le même scénario. D'abord, j'ai fait attention à ce que je devais manger. Et après, j'ai eu des piqûres d'insuline, mais un petit peu moins que la première fois. Et j'avais ce désir de connaître ce que c'est qu'un accouchement spontané. J'ai fait tous les efforts nécessaires et j'ai fait savoir à l'hôpital où j'accouchais que j'aimerais bien, dans la mesure du possible, ne pas être déclenchée et puis surtout ne pas revivre le premier accouchement. Et en fait, je ne sais pas, mon fils a dû m'entendre. Il était prévu fin 18 ou 20 septembre et il est arrivé le 9. Et je pense qu'il m'a entendu, il est arrivé complètement spontanément. Ce jour-là, je me souviens avoir fait une brocante. Et j'ai marché. Toute la journée, j'ai marché jusqu'au soir. Et le soir, on était invité chez des amis et puis j'ai commencé à perdre les os à table, en fait, chez eux. On est allé à l'hôpital, j'ai commencé à perdre les os vers minuit, 1h. On est allé à l'hôpital à 3h et Sayan, est sorti à 8h du matin. Et alors, bizarrement, c'était expédié. Donc une péridurale, 4-5 poussées et hop, il était avec nous.
Est-ce que vous avez réussi à pousser cette fois-là ?
Oui. Ouais. Oui.
Vous avez senti, vous avez réussi à mieux doser la péridurale?
Alors déjà, j'ai appuyé qu'une fois sur le bouton, pour ne pas faire la même erreur deux fois, effectivement. Et puis, déjà, on était trois. Donc, c'était hyper intimiste. Les sages-femmes étaient hyper douces avec moi. Elles m'encourageaient. Elles me disaient, allez, c'est super bien, on va y arriver. Donc déjà, on était trois. Donc ça, c'est fait vraiment dans l'intimité et dans la sérénité. Et ça, je le retiens, en fait. C'est ce qui m'a marquée. Donc du coup, je ne sais pas si la vie va m'offrir un troisième enfant, mais si je dois terminer, je suis contente de terminer là-dessus, en fait, ce deuxième accouchement. Je voulais connaître ce que c'était que la montée d'adrénaline, de ne pas savoir quand ça allait arriver, enfin la surprise, quoi, la surprise du chef. Et donc voilà, j'ai connu deux accouchements complètement différents et je suis contente que ce deuxième accouchement se soit passé dans la simplicité, la rapidité, l'efficacité et la sérénité.
Merci beaucoup, Toumi. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte, Habiba Zaïd, qui est sage-femme. Bonjour, Habiba Zaïd. Vous êtes sage-femme. Vous travaillez à la maison de naissance du Calme, dans le 12e arrondissement, et puis aussi en libéral, dans le 20e. Donc, vous avez entendu le témoignage de Toumi. Alors, moi aussi, j'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir parce qu'elles ont eu des accouchements particulièrement difficiles, avec des complications. Parfois, voilà, le sentiment même qu'on leur a volé leur accouchement. Est-ce que ce sont des situations que vous rencontrez, Habiba ?
Ben, disons qu'à la maison de naissance, c'est un peu différent puisque les couples, quel que soit le couple qui nous contacte, ont un projet de naissance, ce qu'on appelle physiologique. C'est ce qui permet de distinguer de l'accouchement médicalisé, c'est-à-dire ce sont des personnes qui un peu veulent accoucher naturellement, sans médicalisation, sans médecin ni rien. Et une partie de cette population qui vient nous voir, ce sont souvent des personnes qui ont vécu des accouchements un peu traumatiques, comme vous venez de le dire, et qui viennent justement pour vivre autre chose. Et donc ça, c'est sûr que les histoires, on en entend beaucoup. Et nous, notre rôle, c'est un petit peu pour ceux qui le veulent et qui veulent continuer cette expérience avec nous, c'est d'essayer, pas de réparer, mais de leur faire comprendre que malgré ce qu'ils ont vécu, c'est une histoire maintenant qui fait partie de leur vie et que cette fois-ci, cette nouvelle aventure, on va essayer de le faire en sorte que ça soit d'une façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus dans l'humain et puis essayer de les accompagner. C'est pour ça que nous, on fait de l'accompagnement global, c'est-à-dire qu'on accompagne les patientes du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement et de l'accouchement jusqu'au retour à la maison, puisque les couples ne restent pas hospitalisés 6 à 8 heures après la naissance de l'enfant, si les conditions sont favorable et tout va bien, le couple rentre à la maison et nous les suivons à domicile et on accompagne le couple avec le bébé. Ça peut des fois aller jusqu'à un mois de vie, même plus de mois de vie, ça dépend, etc., du parcours et des attentes des uns et des autres. Voilà, en gros.
Donc là, le travail spécifique d'une sage-femme en maison de naissance et la spécificité aussi des couples qui se tournent vers ce mode d'accouchement, qui sont des couples quand même informés.
Tout à fait.
Ou qui ont vécu déjà des choses difficiles. En tout cas, d'ailleurs, Toumi, c'est quelque chose que vous avez souligné, peut-être ce manque d'information, d'explication, de connaissance aussi avant de vivre cette expérience. Voilà, que c'était absolument l'inconnu. Alors, pour nous aider à nous y repérer, Habiba, quand un accouchement se passe bien, donc un accouchement physiologique, comment il se déroule ?
Alors, d'abord, ça demande un accompagnement vraiment particulier, c'est-à-dire qu'on prépare les couples à affronter des événements purement émotionnels, physiques, qui vont se dérouler tout le long de la grossesse, parce que chaque mois de grossesse, il y a plein de choses qui se passent. D'abord, on est enceinte, alors ça dépend comment ce bébé arrive, désiré, surprise, enfin, il y a tous les scénarios possibles, imaginables. Donc déjà, on parle de ça, on dit comment on accueille une grossesse, comment ça s'installe, et puis il y a des choses qui évoluent. Vous savez, il y a des femmes qui peuvent, les trois premiers mois, ressentir beaucoup de choses un peu désagréables, ce qu'on appelle les fameux les petits mots du début de grossesse.
On en a parlé dans un des épisodes.
Voilà, c'est ça. Donc, on va décrypter un petit peu.
Vous avez parlé tout mis du diabète gestationnel, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Et chaque mois de grossesse correspond à quelque chose de particulier, physique et émotionnel. Et ça, on l'aborde à tout point de vue. Nous, pour nous, les sages-femmes, on doit accompagner. Ce n'est pas nous qui accouchons, encore une fois, c'est les couples qui viennent. Eh bien, on essaie d'abord de créer un lien de confiance entre eux et nous, parce que c'est important, pour qu'ils puissent nous faire confiance. Et à partir du moment où vous me mettez en place, il y a un lien de confiance, eh bien, les choses, il y a une ouverture, les gens racontent, ils expliquent, ils demandent. En fait, ça devient très, c'est très simple, en fait, ça, c'est cool.
En tout cas, là, Habiba, vous nous dites que pour aussi que l'accouchement se passe bien, il y a tout un travail en amont d'accompagnement qui est nécessaire. Alors, on parle aussi beaucoup de la préparation à la naissance et à la parentalité. Toumi, est-ce que vous avez eu une préparation à la naissance et à la parentalité ?
Oui, oui, tout à fait. Je m'étais inscrite dans un cabinet de sage-femme en amont. J'ai pris tous les cours. Alors, j'ai appris plein de choses très intéressantes. Mais clairement, au moment opportun, alors, il y a tout qui s'en va. Hein. On oublie tout, on ne se rappelle pas. Enfin, je pense qu'on est, c'est intéressant dans la mesure où on apprend des tas de choses et qu'on se prépare à vivre des choses. Maintenant, je pense qu'effectivement, en cours, on ne soupçonne même pas
ce qui va arriver.
Ce qui va arriver et la force de ce... C'est un tourbillon quoi, qui nous arrive. Et de toute manière, enfin, je sais pas, il y a certainement d'autres femmes qui ont pas oublié, mais alors moi, j'étais incapable de me rappeler comment il fallait faire. Enfin,
en tout cas, Habiba, bon, même vous dites, Toumi, on apprend plein. Vous avez appris plein de choses dans ces cours. Alors là, vous parlez des cours dits classiques, que cette préparation à la naissance et à la parentalité, on sait qu'elle est très importante, qu'elle réduit le risque de dépression du postpartum, par exemple, qu'elle favorise la rencontre et le lien entre la mère et son bébé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme préparation à la naissance et à la parentalité ?
Ouais, en fait, justement, comme chaque couple, c'est comme chaque bébé est différent. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, même si on accueille 10 couples dans une pièce, ces 10 couples ont des histoires tellement différentes. Ils viennent d'horizons divers, ont été mis au monde dans des circonstances différentes. Donc ça fait que dans les cours de préparation, le seul souci, c'est qu'on n'explique pas assez aux gens que ce qu'on va vous raconter, vous expliquer le cheminement classique de l'accouchement, eh ben, il y aura un dixième de ce qui se passera. Mais en fait, c'est surtout, on devrait plus dire aux gens, ou surtout aux femmes, vous avez des corps qui sont faits pour mettre au monde des bébés, qu'on n'a pas besoin d'expliquer à la femme, même au bébé, ce qu'il doit faire, il sait faire. La seule chose qu'on doit surtout accentuer, c'est cette confiance qu'ils doivent avoir dans leur corps. Donc apprendre à se connaître soi-même, déjà c'est énorme. Comment ce corps fonctionne ? Qu'est-ce que je peux apporter, faire pour accompagner mon bébé dans ce processus de naissance ? Parce que lui, il n'a pas besoin, même les femmes, en fait, n'ont pas besoin d'être coachées, de leur expliquer tout ça. Elles savent faire, sauf qu'on leur a dit que sans la médicalisation, sans le médecin, sans la péridurale, sans ces différents ateliers, sans ces cours de préparation, que ce soit du yoga, vous ne serez pas accouchée. C'est une erreur folle. Toutes ces préparations, en fait, ont pour but d'apporter de la sérénité, la sécurité et la confiance en soi. Elles n'ont pas pour but, et moi j'insiste beaucoup, que vous ayez l'accouchement de vos rêves. Si vous avez tous ces éléments qui sont réunis, que vous avez de la sérénité, vous êtes capable de faire des choses incroyables.
Vous parliez du yoga, de la sophrologie, de l'acupuncture, de l'autonomie. Oui. Voilà, il existe aujourd'hui vraiment beaucoup de choses pour faire cette préparation. Et vraiment, l'objectif, c'est de permettre d'avoir confiance en soi, en son corps et en son bébé pour que les choses passent au mieux le jour de l'accouchement. Mais Habiba, d'un point de vue physiologique, quelles sont les différentes étapes de l'accouchement ?
Alors, la mise en travail, c'est la première chose qu'on vous dit. Quand est-ce qu'on sait qu'on est en travail ? Ben, tout de suite, on parle de douleur, de contraction. Effectivement, il y a des douleurs qui vont apparaître, mais le travail se divise en fait en deux parties. Il y a ce qu'on appelle la phase de latence, qui est très longue. Elle peut arriver une semaine avant, 5 jours avant, 3 jours avant, 2 jours avant, le jour même. Il n'y a pas de règle. En fait, chaque femme va vivre sa phase de latence d'une façon tout à fait différente. Quand on explique ça, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des douleurs qui apparaissent quelques jours avant, mais on explique aux dames, c'est génial, ça veut dire que le travail va arriver, ça se met en place. On ne dit pas vous allez accoucher sur le moment, on ne sait pas, puisque personne ne sait quand ça va arriver, à quel moment, et c'est vachement bien d'avoir de la surprise hein, aussi. Et ben, les femmes vont à chaque fois calmer ces douleurs, on leur donne des astuces, ça peut être un bain d'eau chaude, aller se promener, s'occuper à faire des choses, etc. Et puis, souvent, 3-4 heures de contraction un peu plus ou moins douloureuse, et ben ça s'arrête, et puis ça reprend 6 heures après, ça reprend 3 jours après. Rien n'est figé dans cette histoire-là.
Souvent, j'entends les patientes dire j'ai fait du pré-travail ou j'ai été en pré-travail. En réalité, c'est le travail déjà.
Oui, c'est le travail.
Mais qui peut s'étaler sur plusieurs jours.
Tout à fait. Il y a des femmes qui peuvent, si on les examinait, mais nous, on ne le fait pas. Mais moi, ça m'est arrivé une fois où une dame, elle restait avec un col ouvert à 5 cm pendant 4 jours, sans contraction. Elle a accouché que 4 jours après. Donc, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Le travail, ça débute à n'importe quel moment quand le bébé, la maman se sent prête à se rencontrer. Et c'est comme ça, c'est ça la physiologie. Il y a tout un processus hormonal qui peut s'installer. Et puis il y a des personnes qui n'ont rien, qui dorment, et tout d'un coup, une grosse contraction va les réveiller, et elles ont déjà fait la moitié du travail dans le sommeil. Parce qu'il y a de la sérénité, parce qu'elles acceptent tout le processus qui va se faire. Et puis, à un moment donné, les contractions sont plus intenses. Alors, souvent, on dit aux dames, ne chronométrez pas, laissez les choses s'installer, parce que sinon, vous allez induire plein de choses. Et puis, quand ça devient très douloureux, qu'elles ne peuvent pas accompagner, etc., là, nous, on leur explique, laissez les choses se faire, accueillez ce qui se passe. Mais tout ça, elles le savent en amont, parce qu'on leur a expliqué. Et puis, tout ce qui est autour de l'apto, le lien, surtout pour le papa, sa place est tellement importante que lui, ça lui permet d'être complètement, mais en même temps, enceinte avec sa compagne. Sa compagne, c'est un homme ou une femme, peu importe. Mais tout ce processus se fait ensemble. Il sait ce qui se passe, elle sait ce qui se passe. Et quand ça arrive, ils sont pas surpris parce qu'on leur a expliqué que c'était comme ça. On leur a pas dit c'est comme ça. Non, ça peut arriver à n'importe quel moment, différemment, mais accueillez ce qui se passe, accueillez. S'il y a besoin, demandez, ne pas avoir de peur.
En tout cas, là, vous dites bien, Habiba, l'importance, j'entends, d'ouvrir le corps.
Ah oui.
Là, vous parliez des peurs, voilà, les peurs qui vont freiner, qui vont créer des tensions, de la réticence. Et plus, finalement, le couple va aider à ce que le corps s'ouvre, plus l'accouchement va pouvoir se passer sereinement.
Tout à fait.
Dans un cadre physiologique comme à la maison de naissance, mais oui. J'imagine aussi à l'hôpital.
Alors, l'hôpital, effectivement, le seul élément qui est parfois difficile pour mes collègues sages-femmes, c'est le temps. Elles n'ont pas le temps de faire ce que nous faisons, parce que nous gardons quand même les patientes en consultation entre 1h et 1h30, ce qui est différent qu'à l'hôpital où en 20-30 minutes, il faut que la consultation... Donc les peurs ne peuvent pas être travaillées, c'est pour ça que tous les autres éléments comme l'aptonomie ou bien la sophrologie, enfin il y a tellement de choses maintenant, peuvent justement, ça doit être des moments... ou un lieu d'ouverture, justement, où on doit travailler les peurs. Parce que s'il y a des peurs, même si elles datent de l'enfance, ces peurs-là, on le sait pertinemment que pendant le déroulement du travail, tout revient. Les dames revivent des situations. Des fois, elles n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qui se passe, mais elles sont là. Mais si ça a été travaillé, qu'on leur dit, voilà, il y a eu ça dans votre vie, il y a tellement d'événements qui peuvent perturber tout le métabolisme émotionnel, hormonal des femmes, eh bien, on leur dit, vous avez le droit d'accoucher avec. Ben oui. Mais on va essayer d'atténuer ces émotions pour que ce jour-là, vous soyez complètement en phase avec ce qui se passe. Que le compagnon, lui aussi, on fait travailler ses peurs. Parce que lui aussi, il est né quelque part, dans une famille, voilà, il y a eu des choses ou pas. Et puis d'un coup, il va devenir père. Et lui aussi, c'est aussi des peurs, c'est une responsabilité. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je serai accompagner ma compagne? Est-ce que je serai capable de la protéger? Tout ça, c'est important. Et nous, on le travaille ensemble de manière à ce que... Quand ils arrivent au moment de la naissance, c'est une équipe. Ils travaillent à trois, avec le bébé. Et c'est pour ça que nous, on arrive un petit peu à emmener ces gens dans une naissance, peut-être avec plus de sérénité, etc. Parce que tout ça, en amont, ça a été travaillé.
Pour revenir sur les phases de l'accouchement, donc il y a cette phase de latence, ensuite donc la phase active. Alors c'est quoi
phase active, c'est là où les contractions sont très intenses, où on peut perdre pied parce qu'on est un peu surpris par l'intensité de cette douleur que souvent, si on peut demander à plusieurs femmes de la décrire, elles ne savent pas. Tous ont des mots particuliers pour la décrire. Et là, c'est souvent à ce moment-là que le couple décide de partir à la maternité parce que soit on a besoin d'aide.
L'aide, ça peut être tout simplement une sage-femme qui est là pour les rassurer, les accompagner pour la fin du travail, ou tout simplement où la douleur est tellement intense et qu'émotionnellement c'est trop compliqué, ben une péridurale, pourquoi pas. Enfin, voilà. Et la phase active, c'est la plus rapide. C'est ce qu'on oublie de dire. La phase intense peut durer beaucoup d'heures. Et la phase active, on considère que c'est à partir, si on doit examiner une dame, 5-6 cm de dilatation. Donc, vous voyez, tout ce qui est avant, c'est très, très long. Et la phase active, ben, quand les conditions locales sont favorables, c'est-à-dire qu'il y a l'accueil, comment on accueille une dame à l'entrée à l'hôpital, la luminosité, s'il y a trop de lumière dans la pièce, ça peut être très agressif, les machines, les bruits, le monitoring. Alors, cet appareil où tout le monde est en train de regarder des chiffres, il y a une contraction, elle arrive, alors l'autre est figé, le compagnon, lui, tout d'un coup, il atterrit, ça fait un petit peu un jeu vidéo, là, on oublie sa compagne. Enfin, tellement de choses. C'est-à-dire, les salles de naissance devraient être un peu...
Oui, là, vous soulignez vraiment l'importance de l'intimité, du calme aussi, oui, pour favoriser cette sérénité, voilà. Cette confiance.
Tout à fait.
Donc, la phase active. Et puis après, Toumi nous a parlé de la poussée. Voilà, pour son premier accouchement, elle n'a pas réussi à pousser parce que la péridurale était très dosée.
Oui, alors c'est pour ça que quand il y a les consultations d'anesthésie, il est très important que le couple demande comment ça se passe, comment se font les réinjections, est-ce que je peux bouger, pas bouger, est-ce que vous nous autorisez, parce que les positions aussi, quand on est dans la physiologie, on n'a pas besoin d'expliquer aux femmes comment se posturer, parce qu'elles le font d'elles-mêmes, c'est tellement naturel. Mais une dame sous péridurale, qu'est-ce que c'est compliqué de se mettre sur le côté quand on a envie, ou de se mettre même à quatre pattes, une position qui fait peur à tout le monde médical, mais on sait que c'est la meilleure position pour mettre au monde son bébé. Nous sommes des mammifères, on l'oublie. Et il y a tellement de place derrière. Le bébé, il n'a pas besoin de demander d'efforts. Il y arrive, il descend son toboggan.
Mais ça, c'est possible, Abiba, avec une péridurale?
Bien sûr, si elle est faiblement dosée, la dame peut se mettre dans n'importe quelle position. Souvent, il y a des refus, soit parce que les sages-femmes ne sont pas très à l'aise avec ça. Beaucoup de médecins, alors les positions, ça, ils ne veulent même pas en entendre parler. Mais c'est souvent aussi les anesthésistes, ça les arrange. C'est pour leur... Tout ça, c'est le confort du soignant. C'est pas... On ne demande pas aux femmes ce qu'elles veulent. C'est eux. Qu'est-ce que... Voilà, c'est leur désir atteint. Et c'est ça que... Mais maintenant, j'ai dit aux dames, il faut... Pas vous laisser faire. Dites non, révoltez-vous, parce que vous êtes en droit, c'est votre corps, ça vous appartient. Ce n'est pas aux autres de vous dire quelle est la meilleure position. La plus mauvaise, on le sait, physiologiquement, c'est la position sur le dos.
Et qui est la position couramment
employée dans le monde médical.
Mais c'est vrai qu'il faut le dire, on oublie qu'une péridurale, c'est paralysant pour le corps. En fait, donc pendant tout ce temps où on attend, mais on est paralysé. La jambe ne bouge plus, ne se plie plus, et ça, il faut le dire.
Ben oui, le corps médical s'approprie le corps des femmes. L'utérus, il est à côté de vous, il n'est pas dans vous dans ces moments-là. Donc on vous demande de faire des choses avec un utérus qui doit se contracter avec un bébé dedans, on vous demande des choses alors que votre ventre, on vous l'a enlevé. Comment vous pouvez faire? C'est difficile. Et donc s'il n'y a pas de lien entre le psychisme de la femme et le corps, comment vous voulez que ça se passe bien? Ça ne peut pas le faire. Je vois pas comment.
C'est quoi la fin d'un accouchement? C'est quand la fin d'un accouchement?
Ben souvent c'est quand il arrive et là il y a quelque chose, une petite tête qui apparaît et là waouh, premier regard et on sait que c'est ça y est, c'est fait.
Que ça c'est au niveau émotionnel et au niveau physiologique.
Alors physiologique, et ben il y a la naissance de l'enfant, ben ça dépend comment il va naître. Si c'est physiologique, tant mieux. Parfait. Si c'est avec parce que la dame n'a pas pu bien pousser ou qu'elle ne sent pas, ben on est obligé de, parce que maintenant les protocoles veulent que si au bout de 30 minutes de pousser, on va le chercher avec de l'instrumentation. Et ça encore, c'est une grosse aberration en fait. Les mamans prennent du temps au moment où elles sentent que le bébé va arriver. On sait qu'elles prennent du temps pour l'accueillir. Ça peut être 30, 40, 45 minutes. Mais l'hôpital vous dit non, si dans 30 minutes cet enfant n'apparaît pas, on va le chercher. Vous vous rendez compte, tout un processus physio qu'on met en branle. Et ben il sort, ben, on espère dans les bonnes conditions, on met le bébé, maintenant on le fait beaucoup en peau à peau et heureusement, et puis ben, maintenant à l'hôpital on fait ce qu'on appelle la délivrance dirigée pour prévenir l'hémorragie de la délivrance, donc dès que la première épaule de l'enfant sort, l'infirmière vous injecte 5 unités de cytocinon pour que le placenta se décolle très vite et qu'il sorte très très vite, etc. Donc l'accouchement, ben, en fait il s'arrête quand le placenta est expulsé, soit d'une façon physiologique. Nous, par exemple, on attend une heure pour qu'il sorte. On laisse le temps. Et voilà, à l'hôpital, c'est 5-10 minutes. Et s'il ne sort pas et tout ça, on va chercher le placenta, comme vous avez vécu, vous, ce qu'on appelle une révision utérine.
Mmh. Voilà.
Qui se fait forcément sous
et dans certaines maternités, ils le font systématiquement. Il y a même pas, on essaie de sortir le placenta, le bébé sort, vous avez déjà le médecin qui a la main dans l'utérus de la femme. Mmh. Et ça, il n'y a pas plus traumatisant. Et...
Mmh. Oui, parce que moi, j'ai déjà des patientes qui m'ont raconté que ça n'avait pas été fait sous anesthésie générale ou même sous péridurale.
Ils le font tout de suite après,
comme ça a pu être votre cas.
Quand elles sont encore dans la douleur de l'accouchement, qu'elles sont capables de subir la suite. Mmh.
Justement, Toumi nous a parlé de toutes ces complications, le déclenchement. Alors, le déclenchement, est-ce que voilà, c'est quelque chose qui est courant, qui est... J'imagine qu'il peut y avoir des raisons médicales qui peuvent amener...
En règle générale, c'est les raisons médicales qui doivent mettre en place un déclenchement. Donc, il y a plusieurs raisons, bien sûr. Il y a souvent le dépassement de terme. Donc, c'est vrai que maternité aussi, c'est protocole. Vous avez des maternités qui acceptent terme plus 2 jours. Il y en a, c'est terme plus 5, etc. Et les pathologies associées, comme j'ai été écoutée tout à l'heure, un diabète gestationnel, effectivement, sous insuline, dans les protocoles, c'est un déclenchement à un certain moment de la grossesse.
Avant le terme.
Oui, avant terme. Mmh.
Donc, mais c'est pour éviter que le bébé soit trop gros, par exemple.
Ça, puis on sait que ça peut entraîner des retentissements sur lui, sur son état à la naissance, etc. Mmh. Donc, on fait beaucoup de prévention, en fait, le 3/4 du temps, ça se passe relativement bien. Mais voilà, c'est un déclenchement. Donc, des fois, c'est indispensable. Un retard de croissance, eh ben, vaut mieux voir un bébé à l'extérieur qu'un bébé dans le ventre de sa mère. Il y a énormément de choses qui obligent quand même au déclenchement.
En tout cas, ces techniques médicales doivent être utilisées pour des raisons médicales parce qu'il y a un risque pour la mère et ou pour l'enfant.
Oui, on parle souvent aussi dans certains endroits de déclenchement de convenance. Mm-hmm. Ça arrive que des femmes demandent à être déclenchées pour des raisons XY, d'ordre privé. Ça arrive, c'est vrai. Mm-hmm. Mais j'espère croire qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ça existe, c'est vrai, effectivement.
Toumi nous a parlé de déchirure, d'épisiotomie. Qu'est-ce que c'est l'épisiotomie, Habiba ?
L'épisiotomie, c'est une incision au niveau du périnée sur 3 plans musculaires. Enfin, c'est une chirurgie, quoi. Non.
Là, vous êtes en train de nous faire le geste de coupure.
Voilà, en principe, maintenant, les recommandations, c'est de le faire, l'épisiotomie, si besoin. Si vraiment c'est sauvetage extra-urgent d'un bébé, etc., ou une instrumentation difficile, on peut être amené. Mais en règle générale, maintenant, on essaie de ne plus faire d'épisiotomie.
La déchirure naturelle, finalement, est mieux, si je puis dire.
Oui, elle est beaucoup moins douloureuse que l'épisiotomie, parce que l'épisiotomie, ça coupe quand même des terminaisons nerveuses, parce que c'est sur 3 plans. Mmh. Et c'est, au niveau de la cicatrisation, c'est beaucoup plus douloureux pour les femmes, bien sûr. Vaut mieux une petite déchirure naturelle
qu'une
épisiotomie.
Est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que dans tous les accouchements, il y a déchirure, épisiotomie ?
Non, je sais qu'il y a beaucoup de travail qui ont été faits. Maintenant, il y a très, très peu d'épisiotomie. Les dernières statistiques sont quand même très positives par rapport à ça. Heureusement, d'ailleurs.
Est-ce que les femmes peuvent préparer leur périnée ?
Bon, alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a beaucoup de méthodes qui viennent des pays nordiques, comme l'épino, que tout le monde utilise, cette espèce de dilatateur. On peut l'utiliser. Il y a beaucoup d'ostéos, beaucoup de personnes qui font de la rééducation périnéale peuvent être... Alors, en fait, il y a des pour, il y a des contre. Il y a la préparation avec le massage du périnée, mais... Moi, souvent, je ne fais pas tout ça parce que je me dis que si les femmes se font des automassages toutes seules parce qu'on leur a expliqué plus ou moins sur YouTube, des choses comme ça, si elles se font mal, la douleur de ce doigt va rester dans la mémoire des femmes. Alors, si elles se disent, si un doigt me fait mal, alors un bébé, qu'est-ce que ça va faire ? Donc, j'ai toujours peur des retentissements que peut avoir ce genre d'intervention. Nous, on part du principe que le corps, il sait faire, il sait se détendre, il sait se... Et c'est vrai, ça fonctionne, puisqu'on fait des accouchements avec des périnées intactes, tranquillement, à la maison de naissance, sans avoir recours à tout ça. À partir du moment où vous mettez des choses en place pour essayer d'accélérer le processus, etc., vous entravez le processus physiologique de la naissance. Et en fait, c'est comme la nature, si vous essayez de contrecarrer ce qu'elle veut faire, eh ben, elle se retourne contre vous. Donc, moi, je pars de ce principe. Je mets en place, si besoin, par exemple, si j'ai un gros dépassement de terme et que, franchement, je ne veux pas que ma patiente aille accoucher à l'hôpital, là, je vais peut-être utiliser ce qu'on appelle des recettes de grand-mère pour essayer d'accélérer, de mettre en place des choses. Mais en règle générale, je veux que le corps fasse ça tout seul. Et le bébé, il fait ça tout seul. On n'a pas besoin de tout ce tralala. Quoi. C'est ma façon de voir. Hein. Mais c'est pas, peut-être pas comme tout le monde.
Toumi nous a parlé aussi de la sage-femme qui appuyait sur son ventre.
Expression abdominale, strictement interdit.
Donc c'est interdit par la haute autorité de santé.
Ça peut décoller un placenta et provoquer des hémorragies. Donc strictement interdit. Ça, c'est aller à l'encontre des recommandations.
Ok, ça me semblait important.
Ah oui, ça absolument interdire. Dès qu'on vous met la main sur le ventre, stop. Le compagnon doit dire stop ou la compagne, stop.
C'est bien de le dire. Ouais. C'est très bien.
Ouais. Oui, ça m'évoque aussi cette question du consentement. Voilà. Toumi, est-ce qu'avant de vous faire l'épisiotomie, est-ce qu'on vous a prévenu qu'on allait la faire ? Est-ce qu'on vous a demandé votre consentement ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et de toute manière, j'étais tellement, tellement stone, tellement ailleurs, que je ne sais même pas si j'étais en capacité de réfléchir. Je pense que je me suis confiée au corps médical et je me dis qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu au moment où il fallait agir. Mais non, on ne m'a pas demandé mon consentement. Aujourd'hui, j'ai un enfant qui va très bien. Donc, c'est ce que je retiens.
Et vous, est-ce que vous allez bien ?
Oui, moi, je vais bien.
Vous allez mieux ?
Je vais bien. Ça a mis le temps. Ça a mis le temps. C'est vrai que c'était très, très, très ancré. Enfin, c'était dans la tête. C'était les images, elles étaient là les premières semaines et tout. Mais après, on est occupé sur autre chose. On met son énergie sur autre chose. On essaie d'aller de l'avant et de s'occuper de son petit bout.
C'est sûr. Mais ce qui est important, c'est que tout acte médical qui doit être entrepris sur les femmes doit être expliqué avant. Et si ce n'est pas possible, c'est après. On ne doit pas laisser les femmes sans savoir ce qui s'est passé. Le fait de poser une perfusion devant une infirmière, mettre un médicament, quelque chose dans la poche, et ben il faut dire ce qu'il y a dedans, pourquoi on le fait. Parce que tout ça, ça crée des peurs, des résistances. Et ça n'aide pas à la suite de la naissance de l'enfant. Tout doit être dit, les paroles, quand on ne comprend pas, on emploie souvent des mots techniques. Et on oublie que les gens qui nous écoutent ne comprennent absolument rien à ce langage médicalisé. C'est pour ça que le rôle du compagnon est important. C'est lui qui doit être un petit peu le lien entre le professionnel et la patiente. C'est-à-dire que le papa demande ou la compagne demande qu'est-ce qui va se passer, pourquoi vous faites ceci, qu'est-ce que vous avez mis. Et elle ensuite, ou lui, avec sa voix, va expliquer à sa compagne, voilà ce qu'on est en train de faire, ne t'inquiète pas. C'est lui qui protège. C'est lui qui peut dire stop quand il considère qu'il y a des violences qui sont faites. Parce que moi, je considère que c'est des violences à partir du moment où on fait des choses sur des femmes et qu'on ne leur dit pas ce qui se passe. On n'a pas le droit de s'approprier le corps des femmes. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut sur les femmes parce que tout simplement, elles sont vulnérables, qu'elles ne peuvent pas dire les choses, qu'elles ne peuvent pas s'exprimer. Et ça, il faut...
Et puis, légalement, en théorie.
Et légalement, c'est voilà, le droit du patient, c'est quand même une charte qui a été signée.
Demander le consentement.
Bien sûr, c'est hyper important et beaucoup de populations sont vulnérables. Et on leur fait subir des choses qui ne sont pas à faire subir sur les personnes.
En tout cas, là, Ibiba, vous soulignez vraiment la place, le rôle, l'importance du conjoint, de la conjointe, et l'importance qu'il soit informé aussi de tout ce
Bien
qui va
sûr.
Se passer, donc qu'il participe aussi à toute la préparation
tout à
la naissance et à la parentalité pour pouvoir justement jouer ce rôle-là de soutien, mais aussi de protection.
Tout à fait. Pour moi, il a une place importante.
Toumi aussi, alors dans votre accouchement, vous avez parlé des forceps, je crois.
Oui.
Donc l'utilisation d'instruments. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose...
C'est beaucoup mis en place maintenant. Maintenant, il y a la ventouse. C'est très facile, la ventouse à placer. Mais on le fait à cause du fait qu'il n'y a que 30 minutes où elle a le droit de pousser. Au bout de 30 minutes, il y a une horloge dans la salle et les médecins sont là. Ils viennent avec la... Et les dames, elles ne comprennent pas. Elles disent, mais je vais pousser, je vais y arriver. Ah non, ça fait longtemps. Et automatiquement, on leur explique que si ils n'interviennent pas, l'enfant risque d'avoir des problèmes. C'est quoi cette façon de faire ?
Mais c'est vrai, je ne me souviens plus. Je ne sais plus si c'était ventouse ou forceps. Enfin, en tout cas, c'était un instrument, comme vous avez dit.
Toumi nous a aussi parlé de l'hémorragie de la délivrance. Alors, ça, je sais que c'est souvent la crainte, justement, d'ailleurs, vous nous avez dit, Abiba, tous les protocoles qui sont mis en place pour éviter, prévenir cette hémorragie. Est-ce que c'est très fréquent, l'hémorragie de la délivrance ?
C'est pas fréquent, mais je sais que la France, elle est pas bien placée par rapport à cette pathologie. Justement, c'est pour ça qu'on a essayé de limiter l'utilisation de l'ocytocine pour accélérer le travail, parce qu'on sait qu'à un moment donné, l'utérus, il a des récepteurs, et qu'à un moment donné, ça ne répond plus. Et quand le bébé sort, il est complètement relâché, donc il est incapable de se rétracter au moment de la sortie. C'est-à-dire qu'il doit se refermer pour faire... voilà. Mmh. Et donc, maintenant, on essaie de faire des choses de manière... Parce que, bah, l'expression abdominale, voilà, interdit. L'utilisation abusive de l'ocytocine interdit. Voilà. Mmh. Puis, on sait que le stress, plein de choses peuvent être aussi des éléments perturbateurs. Mmh. Voilà.
Bien sûr. La question de la césarienne, s'il y a aussi beaucoup de femmes qui accouchent par césarienne, alors en urgence ou de manière programmée, en tout cas moi je vois bien chez mes patientes que quand c'est programmé c'est souvent un peu mieux vécu parce qu'elles peuvent se préparer, alors que quand c'est après plusieurs heures, des heures de travail avec l'espoir bien souvent d'un accouchement par voie basse et puis que ça finit en césarienne, souvent il y a beaucoup de déceptions, en tout cas émotionnellement et psychiquement c'est souvent difficile. Qu'est-ce qui amène à la césarienne ou...
C'est vrai qu'il y a beaucoup de déclenchements. Donc, on sait qu'un déclenchement sur trois, c'est une césarienne. Ça, on le sait, dans les statistiques. À un moment donné, le corps, il dit non, je ne peux pas. Mmh. Et puis,
je ne peux pas, je ne suis pas prêt.
Oui, je ne suis pas prêt. Mmh. Le fait de déclencher sur un bébé ou une maman qui n'est pas prête à mettre au monde son bébé, c'est compliqué. Et il peut y avoir aussi les histoires de bassin. Mais en fait... une césarienne, il y a énormément de raisons qui peuvent le mettre en place. Souvent, on accueille des patients dont on ne connaît pas le bassin, donc on découvre tout ça le jour de l'accouchement. Et puis, vous avez des personnes qui, mécaniquement, ça ne peut pas le faire. Le bassin, il est petit, ou soit le bébé, il n'y arrive pas, il a tout essayé, il est entortillé dans son cordon, soit... Et puis maintenant, il y a aussi les sièges. Maintenant, on est très frileux par rapport aux sièges. Donc, le siège, dans beaucoup de maternités, siège égale à césarienne. Alors que beaucoup de femmes pourraient accoucher par voie basse. En fait, il y a énormément de choses qui se passent dans les maternités du fait de la peur des soignants. En fait, souvent, c'est les femmes qui disent aux soignants « ne vous inquiétez pas, je vais bien ». Alors que ça devrait être le contraire. Donc, il y a aussi des peurs. Il y a le fait que si le soignant a une expérience un peu négative, il ne l'a pas oublié. Et à chaque fois qu'il se retrouvera dans la même situation, sa peur va l'emporter et les décisions sont des fois très hâtives. Et des fois, heureusement qu'il y a des césariennes, bien sûr. Heureusement, parce que ça permet aussi de sauver
la
mère et l'enfant, ça c'est vrai. Mais il y a trop de travail dans les maternités, il y a trop de monde, tout le monde sous péridurale. Et puis, ça va vite, les césariennes, puisqu'on n'a pas le temps de s'occuper vraiment, d'être patient surtout. Mmh. Voilà. Et puis, s'il y a quatre personnes où c'est difficile... Si on fait deux césariennes, enfin c'est un peu brutal ce que je dis, mais peut-être la nuit se passera mieux. Enfin, je sais pas. Les conditions de travail sont tellement difficiles que
oui, les sages-femmes aussi en maternité elles peuvent.
Elles font ce qu'elles peuvent. Elles sont
avec les moyens qu'elles ont.
Puis il y a le médico-légal maintenant aussi qui est bien mis en place. Donc les gens ne veulent plus prendre de risques. Vous savez, quand vous êtes trois sages-femmes et que vous avez 10 femmes en travail, comment vous voulez accompagner? Je trouve ça tellement difficile. Déjà, quand nous, on est tout seul, on a beaucoup de chance, on est des privilégiés. Et je trouve que c'est difficile. Alors, avoir quatre dames à surveiller dans la fatigue, le stress de tout le monde, c'est difficile.
Tout à l'heure, Habiba, quand vous nous parliez du début de la phase active du travail, vous parliez de la douleur des contractions. Est-ce que toutes les femmes, parce que souvent c'est une inquiétude, moi j'entends toutes mes patientes pendant la grossesse avoir peur de l'accouchement, de la douleur. Mmh. Est-ce que toutes les femmes, elles ont mal?
Oui, elles ont toutes mal, mais pas de la même façon.
C'est-à-dire
que nous, la douleur, on essaye de la travailler dans le sens... par exemple, une question tout simple, on dit souvent aux dames, est-ce que tu as déjà eu mal dans ta vie? Et souvent, elle réfléchit, elle cherche la douleur. Donc, en fait, et ensuite, après, on va décortiquer un petit peu, parce qu'il y a aussi l'émotionnel dans la douleur. J'ai mal, mais j'ai mal aussi parce que j'ai peut-être peur d'être mère. J'ai mal parce que j'ai eu une histoire qu'on m'a racontée et tout ça. En fait, ce qu'on appelle les résistances, les problématiques, les choses, les émotions que les femmes augmentent cette douleur. Alors moi, ce que je fais, cette douleur, si elle est très importante, parce qu'il y a plein de choses dedans, moi, je fais des circulaires. Une circulaire, c'est ma mère, ma mère, elle m'a dit que j'avais... Et après, on va décortiquer tous ces éléments pour que cette douleur devienne petite. Mais elle peut grossir. Par exemple, une dame peut être arrivée très sereine, mort à la maternité, avoir une douleur qu'elle arrive à accompagner, etc. Mais à un moment donné, bonjour madame, vous êtes venue pourquoi? Alors la dame est en train de se tordre, mais c'est parce que j'ai mal. Ah d'accord, depuis quand? Donc plein de questions, alors qu'elle n'a qu'une envie, c'est de leur dire ne vous inquiétez pas, cette douleur, elle va se multiplier par 10. La lumière trop forte, c'est stressant, ça augmente encore l'intensité de la douleur. Donc en fait, le travail de l'accompagnant, de la sage-femme, c'est à chaque fois de faire en sorte que cette douleur importante, elle diminue au fur et à mesure. Et dès qu'elle augmente, on sait parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. une intrusion d'un, par exemple, d'une personne en uniforme de soignant, déjà souvent les gens ne se présentent pas, donc ils demandent qui c'est et pourquoi il est venu. Et ben toutes les interrogations qu'elle va se poser, ça se transforme en intensité de douleur.
Oui, comme vous disiez, Toumi, vous avez vu le médecin arriver. Voilà. Vous savez, quand on appelle le médecin, c'est que ça se passe mal, quoi. Donc là aussi, ça vient fermer le corps. Dans ce que vous dites, Habiba, j'entends aussi peut-être qu'il y a une distinction à faire entre douleur et puis ce qui est désagréable. C'est qu'il peut y avoir des choses désagréables dans le corps, qui se passent dans le corps, mais que ce n'est pas forcément non plus douloureux.
Non, c'est souvent la différence entre sensation désagréable et douleur. La frontière, elle est très limite. Ça aussi, on l'apprend, on l'explique aux femmes, etc. Et puis souvent, les femmes, elles deviennent, elles crient. Alors ça, le truc, c'est dommage qu'on empêche les femmes de crier. Ça, les maternités, on dit aux femmes, oh non, 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 pas ça, non, non, pas. Donc le cri, ça peut exprimer aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses par le cri. Moi, j'aime bien quand les dames crient parce que je sais qu'elles libèrent des choses et ma douleur, je sais qu'elle va être minée. Et la douleur, elle devient importante au moment où la maman, et ça, c'est incroyable, elle sent que le bébé approche. Et là, le cri change. La douleur, elle n'est pas pareille parce que d'un coup, c'est oh, il arrive. Et il y a des femmes, eh ben, c'est en décalage entre ce que le corps fait. Moi, il y a des dames, par exemple, quand les accouchements sont rapides, nous, on dit ah, oh, super, c'était génial. Elle dit ah, oh, non, mais moi, on m'a dit que ça allait durer 10 heures, mais pourquoi c'est qu'au bout de 3 heures, moi, je n'étais pas prête. Mais en fait, ça crée une douleur, mais pas une douleur physique, mais une douleur psychique. Et c'est ce mélange de tout ça qui fait que. C'est pour ça que la sage-femme, c'est de l'accompagnement. On ne coache pas ni rien, mais on accompagne, on regarde, on observe, et en fonction de ce que fait la femme, on réajuste le tir. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette douleur, eh ben, c'est sûr que si je mets trois dames qui ont accouché dans les mêmes circonstances que toi, eh ben, peut-être qu'il y en a une qui dira moi, c'était bien, l'une, ah non, c'était horrible, et l'autre dira non, ça a été. Voilà.
Bon, et puis on sait que là aussi, il y a plein d'outils. On en a un peu parlé pour la préparation à la naissance et à la parentalité, voilà, qui existent pour aussi aider à soulager la douleur, les visualisations. Vous avez parlé du bain, des massages.
La bouillotte chaude, les points d'acupression, tout ça.
Toumi nous a parlé du fait qu'elle avait été déclenchée. Quels seraient, vous parliez tout à l'heure, Habiba, de conseils de grand-mère ou de méthodes, voilà, pour aider un déclenchement spontané ou favoriser, voilà, un travail qui peut être, voilà, un peu long ou... Qu'est-ce que les femmes peuvent faire?
Alors, les câlins, ça marche super bien, parce que les papas, ils secrètent des...
Donc, faire l'amour...
Faire l'amour, ouais, c'est super
donc
bien.
Donc, ce n'est pas un mythe.
Non, ce n'est pas un mythe. Stimuler les seins, le fait de stimuler les seins, le colostrum, ça fait agir les ocytocines, la prolactine, qui vont mettre en travail. On utilise aussi des huiles essentielles, de la sauce clarée, ça marche super bien, en massage au niveau du ventre et du dos. Il peut y avoir de l'ostéopathie, l'acupuncture, la marche...
Souvent, j'ai entendu mes patientes aussi me parler de décollement des membranes.
Alors, le décollement des membranes, ben, nous, on le fait pas parce que ça peut donner l'effet contraire.
En quoi ça consiste?
En fait, on décolle le pôle inférieur de l'œuf. C'est-à-dire qu'entre le col, il y a la poche. On décolle pour stimuler, en fait, pour essayer
donc
de...
la sage-femme ou le médecin va mettre des doigts pour...
Oui, c'est très douloureux. On le fait vraiment... Quand on sent que, ben voilà, on est à J5 et on veut éviter le déclenchement. Et ça, il faut le faire sur un col qui est mûr, qui est ouvert. Sinon, c'est primipare, nous, on évite parce qu'on sait que ça peut être l'effet contraire. Quand c'est une deuxième, troisième part, souvent, elles ont des cols qui sont beaucoup plus favorables. Et souvent, ça peut marcher, le décollement. Mais ça doit se faire avec beaucoup de douceur parce que ça peut être très douloureux. Très douloureux.
Oui, donc là, l'importance d'informer les femmes, de leur expliquer, de leur parler des conséquences.
Et puis, il faut leur consentement. Faut pas le faire comme ça. Il faut leur dire, voilà, on explique, est-ce que tu le veux ou tu veux pas. On peut essayer, mais on essaye d'autres méthodes avant d'en arriver là. Il y a l'huile de ricin, mais je le déconseille, c'est hyper violent.
Ça provoque des vomissements. Et...
Oui, ça peut être aussi pas bon pour le bébé. C'est trop fort pour lui.
Dans le postpartum, donc juste après l'accouchement, alors d'un point de vue physiologique, vous disiez l'accouchement se termine par l'expulsion du placenta, mais que parfois, émotionnellement, psychiquement, il peut mettre beaucoup plus de temps à se terminer cet accouchement. C'est un peu ce que vous nous avez dit, vous avez émotionnellement, psychiquement mis une année, peut-être un peu plus d'une année à peu près pour vous en remettre. En tout cas, souvent mes patientes me disent qu'elles sont surprises, de ce qui va se passer aussi dans les jours qui suivent. Là, je pense à l'importance et l'abondance des saignements, par exemple. Voilà, qu'est-ce qui se passe, notamment au niveau du corps, dans les heures et les jours qui suivent l'accouchement, dont on ne parle pas beaucoup aux femmes?
Oui, c'est ça. En amont, il faudrait faire des ateliers retour à la maison. Mmh. Ça peut être, on n'en parle pas assez de ce retour à la maison. Les deux, trois premiers jours, les femmes se laissent un petit peu porter par l'équipe qui les accueille en maternité ensuite de couche. Ce qui est difficile, c'est que pour les femmes qui allaitent, qui n'allaitent pas, c'est pas du tout le même processus, parce que pour une femme allaitante, ça veut dire que tout d'un coup, elles ont un petit bébé qu'elles doivent décoder. Donc les premiers temps, on fait beaucoup de peau à peau justement pour stimuler la montée laiteuse, tout ça. Et puis pour le lien mère-enfant, donc pour les mamans qui ont été un peu séparées de leur bébé, soit parce qu'il y a une césarienne, soit parce qu'il y a eu des soins à faire sur l'enfant, etc. Il est hyper important de privilégier le peau à peau pour le lien, pour renouer des liens avec la maman, le bébé. C'est très important parce que...
Oui, en tout cas, là, ça m'évoque la question de la rencontre. Vous l'avez un peu dit, Toumi, voilà, votre premier, vous avez pu le rencontrer, mais ça a été assez rapide. Et puis, qu'il y avait des préoccupations du corps très importantes. Et avec souvent, moi, j'ai beaucoup de patientes qui ont idéalisé ce moment de la rencontre, voilà, qui ont pensé, une fois qu'ils seraient sortis, que ça allait être merveilleux, incroyable, qu'elles allaient avoir une émotion très forte. Souvent, elles sont déçues que ça se passe pas comme ça et que parfois, cette rencontre, elle va se construire, elle peut mettre du temps. Et que d'autant plus quand il y a eu des douleurs ou des complications médicale, la préoccupation du corps va prendre le dessus et psychiquement, c'est normal de ne pas toujours être disponible aussi à ce moment-là pour rencontrer son bébé.
C'est pour ça qu'il y a la compagne ou le compagnon qui prennent le relais, qui font du peau à peau avec le bébé, le temps que la maman se remette un peu de tout ce qui... On sait qu'il faut un moment de... une pause. Enfin, quand le bébé sort, c'est pas souvent, c'est pas j'accueille mon bébé. Il y a des mamans qui sont dans le retrait parce que souvent, quand elles sont sous péridurale, elles ne sentent pas l'arrivée de l'enfant. Donc, il y en a une fois qui m'a dit on aurait pu me mettre n'importe quel bébé sur mon enfant, je ne savais pas que c'était le mien. Comment voulez-vous qu'elle accueille un bébé qu'elle n'a pas senti passer et qui est sorti? Puis on leur présente des fois avec un bébé qui est plein de sang parce qu'il y a eu des forceps, il y a eu des choses. Elles ont peur de ce petit être et la construction se fait dans les heures qui viennent. Le peau à peau, le papa qui prend le relais. Faut pas à ce que c'est un mythe de dire que tout le fameux instinct maternel, enfin tout ce qu'il y a autour de ça,
ça n'existe pas.
Ça n'existe pas quelque part. Ça se construit, le premier regard. Ça va se faire petit à petit, mais effectivement, il faut que les femmes soient très, très entourées. Il doit être, faut laisser le temps, il faut être patient. Et les choses vont se faire tranquillement. Il faut réparer. Parce que lui aussi, il se répare de son côté, parce que c'est quand même un travail d'entrer dans un bassin, de descendre et de subir ce qu'il a. C'est pour ça que l'ostéopathie, c'est super bien. Et n'hésitez pas, tous les bébés qui naissent par voie basse, il faut l'emmener chez l'ostéopathie. Et... le poids à peau, encore une fois, j'insiste.
En tout cas, là, vous nous dites, Habiba, que dans l'après aussi, l'importance de l'accompagnement. Souvent, les femmes disent « j'ai été très suivie pendant toute la grossesse », puis elles rentrent à domicile, elles ont un peu l'impression que c'est le vide, le néant, mais que là, il y a des visites possibles des sages-femmes à domicile qui sont prises en charge par la Sécurité sociale. Beaucoup de femmes ne le savent pas forcément. Et puis, il y a les sages-femmes libérales, la PMI, le pédiatre, les lieux d'accueil parents-bébés, un suivi psychologique, s'il y a besoin de parler de cet accouchement qui peut-être s'est bien passé d'un point de vue médical, mais au niveau émotionnel et psychique a été peut-être plus compliqué, ou quand au niveau médical il y a eu des traumatismes, des choses très dures, c'est important de ne pas garder ça pour soi.
C'est pour ça que cette information doit être diffusée lors d'un atelier au moment de la grossesse, pour que les femmes aient des outils, des liens qu'elles peuvent mettre en place.
Donc c'est important d'aller au cours sur l'après.
L'après, ouais.
Ok. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup, Toumi, pour votre témoignage, d'être venue nous parler de votre accouchement très difficile. Et puis, qu'il y a eu quand même un deuxième qui a un peu permis de réparer ce qui s'est passé pour vous.
Est-ce que je peux rajouter une petite chose pour donner de l'espoir à toutes ces femmes qui ont envie de devenir maman? C'est que certes, j'ai eu deux accouchements, dont un très difficile. Je tiens quand même à dire que j'ai eu mes deux enfants avec une seule trompe. Donc mesdames, c'est possible.
Ok, merci Toumi. Habiba, souvent je recommande des lectures à mes patientes. Est-ce que vous auriez envie de nous recommander pour les femmes qui nous écoutent les pères et les conjoints?
Il y a des super lectures. Alors, il y en a un qui s'appelle « Le guide de la naissance naturelle ». Retrouver le pouvoir de son corps de Ina Megaskin. Super livre qui va vous entraîner dans la grossesse, mais d'une façon, puis beaucoup de témoignages.
qui va vous permettre de vraiment croire en vous et de vous dire que voilà, vous êtes capable de faire des trucs incroyables.
C'est un livre que je recommande souvent à mes patientes. Oui. En effet, dans ces témoignages, il est peu question de la douleur, mais beaucoup du pouvoir du corps des femmes. Et puis toute la partie vraiment sur la physiologie qui amène beaucoup d'informations. Même si on accouche à l'hôpital, bah, d'avoir toutes ces informations, ça permet aussi de pouvoir comprendre, pouvoir se positionner, dire ce qu'on veut pas. Et
tout
ça, c'est important.
Il y en a un autre qui est pas mal, c'est « J'accouche bientôt, que faire de la douleur » de Maïti Trellon, qui est très bien aussi, qui explique un petit peu attendre un bébé autrement aussi, qui est une ressource pour une grossesse naturelle aussi, de Catherine Pirot-Rouet et Emmanuel Sampère-Chandre. Et puis, il y a aussi deux petits films, deux documentaires qu'on peut trouver sur YouTube qui s'appellent « Entre leurs mains ». Donc, c'est un peu l'histoire de quatre sages-femmes, mais c'est bien aussi de connaître un petit peu le parcours de sages-femmes qui travaillent dans des milieux très différents. Mais ça vous permet de mieux comprendre un petit peu le travail de la sage-femme, parce qu'on ne la connaît pas très bien aussi. Hein, voilà. Et puis, « Rythme et tempo de la naissance » aussi, ce qui va vous donner plein d'éléments de l'accouchement physiologique, mais bien sûr, je parle beaucoup physiologie parce que j'aime bien, mais en connaissant son corps, on peut aussi accueillir la médicalisation si besoin. Voilà.
Ok. Merci beaucoup, Habiba, pour toutes ces explications, tous vos conseils. Vraiment, voilà. Merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui nous parler de tout ça. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.